VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Nigeria. L'ONG humanitaire française ACF, Action contre la faim, a annoncé dans un communiqué aujourd'hui que le groupe armé retenant captif une salariée d'ACF, deux chauffeurs et trois employés du ministère nigérien de la Santé enlevés dans le nord-est du pays en juillet a exécuté un des otages. ACF condamne sans réserve l'assassinat de ce travailleur humanitaire. Par ailleurs, l'armée nigérienne a fermé les bureaux de Mercy Corps, une autre agence humanitaire, dans le nord-est du pays, quelques jours après la fermeture des bureaux d'action contre la faim dans la même région. Afrique de l'Ouest toujours, au Mali, 7 morts et 46 blessés par suite de brûlures. Tel est le tout dernier bilan de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne mardi dans le centre de la capitale Bamako. Un bilan qui risque de s'alourdir selon les autorités, vu l'état de certains blessés. Le film de la tragédie avec notre correspondant sur place, Lamissa Sangari.
De la fumée épaisse au milieu de laquelle des blessés sont jonchés à même le sol. Quelques corps calcinés ça et là. Des éléments de la protection civile se démêlant parmi les victimes. Hier après-midi, en plein cœur de Bamako, lorsqu'un camion citerne de 14 millilitres transportant du carburant s'est renversé non loin d'une station d'essence, les premiers blessés furent transportés à l'hôpital Gabriel Touré après plusieurs heures de dur labeur, explique le lieutenant-colonel Adama Diara de la protection civile.
Sur les lieux, nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs brûlés. La citerne était renversée. La première équipe s'est mise à éteindre le feu. Deuxième équipe venant en renfort avec les ambulances ont commencé à faire le conditionnement des blessés, des brûlés et on les a envoyés à l'hôpital Gabriel Touré.
Sur place à l'hôpital Gabriel Touré, le ministre de l'Environnement n'a pas caché sa satisfaction de la promptitude de l'équipe médicale.
Nous avons été heureux de constater que tous les services du Gabriel Touré et du département de la santé se sont mobilisés et ont rendu gratuit la prise en charge. C'est une situation que nous allons suivre.
Les corps calcinés ont été transportés au centre de santé du quartier Mali. Dans un communiqué, le gouvernement a rassuré que des investigations sont en cours pour comprendre les circonstances exactes du drame et situer les responsabilités. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Politique en Guinée maintenant, le président guinéen Alpha Condé a exhorté ses concitoyens à se préparer à un référendum et à des élections. Lors d'une rencontre avec la communauté guinéenne à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, en cours dans la grande métropole américaine. Les réactions suscitées en Guinée même par cette annonce avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Lors d'une rencontre avec la communauté guinéenne à New York, le 20 septembre, le président Condé a finalement confirmé ses intentions, la modification de la Constitution.
Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections.
Au pays, le Premier ministre est en consultation pour entendre les avis des Guinéens sur les élections législatives prévues avant la fin de l'année, selon la date fixée par le président de la CENI, mais aussi justement sur le changement de la Constitution. L'appel du président Condé pour un référendum ne peut qu'alimenter les débats avant les résultats de ces consultations.
Pour faire le référendum, ça n'y a pas un problème. Mais il faut qu'il soit honnête, dire sincèrement, oui, après le référendum, je vais me présenter ou pas. C'est ça le problème.
Comment on va vers le troisième mandat? Ce que tu n'es pas fait dans 9 ans, comment tu vas faire dans 5 ans? Nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, 2020, on veut un nouveau président en Guinée ici.
En ce qui me concerne, moi, je soutiens le projet du référendum. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chefs de quartier, ils ont été imposés. Moi, aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans la constitution qu'on a actuellement. Ça n'a pas été voté.
Au FNDC, fer de lance de la contestation sociale, cette sortie du président Condé ne surprend personne. La lutte contre le changement constitutionnel se poursuit, a dit Ibrahima Diallo, chef des opérations du FNDC.
Nous n'allons pas accepter que M. Alpha Condé impose un dictat à la Guinée et au peuple guinéen. Et rassurez-vous que la résistance sera rude, mais le combat citoyen pour l'alternance démocratique, pour la paix, pour la stabilité de la Guinée, pour la défense de la Constitution sera gagnée.
L'opposition guinéenne, membre du FNDC, a plusieurs fois dit qu'elle n'acceptera pas de changement de Constitution en Guinée. Pour Faya Milimono, président du Bloc libéral, le président Condé veut sans nul doute forcer les choses.
Il était simplement en train de prendre le temps, question de réunir les conditions qu'il considère nécessaires. Mais aucune condition ne sera suffisante pour tripatuer la Constitution. Nous avons vécu le tripatuage de la Constitution au début des années 2000, ce qui a permis aux gens Alassane Conté d'avoir une présidence à vie. Ce pays-là est allé en faillite. C'est des centaines de jeunes gens à la fleur de l'âge qui ont été tués. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de justice. Nous ne retournerons à cela pour aucune raison.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant. La Chambre des représentants du Congrès des États-Unis va ouvrir une enquête pour impeachment à l'encontre du président Donald Trump. Première étape d'une procédure de destitution du chef de l'exécutif américain. L'opposition démocrate à la Chambre basse accuse le président Trump d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine dans le but de salir le nom de son rival Joe Biden qui brigue l'investiture du Parti démocrate comme candidat à la magistrature suprême au présidentiel de 2020. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Après avoir hésité pendant des mois, les démocrates majoritaires à la Chambre basse du Congrès depuis janvier se sont finalement résolus à engager un bras de fer avec la Maison-Blanche qui devrait peser sur la campagne en vue de l'élection présidentielle de 2020. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé le lancement de cette enquête pour impeachment à l'issue d'une réunion à huis clos avec les élus démocrates, estimant que le président Trump avait mis en danger la sécurité nationale des États-Unis et violé la Constitution. Le président doit rendre des comptes, personne n'est au-dessus de la loi, a expliqué Nancy Pelosi. Donald Trump a répliqué rapidement sur Twitter en dénonçant une chasse aux sorcières pourries. Le chef de file des Républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, a dénoncé mardi ce qu'il a appelé la décision unilatérale de Nancy Pelosi. Madame Pelosi est présidente de cette Assemblée, mais elle ne parle pas au nom de l'Amérique en ce qui concerne cette question. Elle ne peut pas décider unilatéralement que nous lançons une enquête pour impeachment, a-t-il déclaré. Beaucoup d'élus démocrates préconisent depuis longtemps l'ouverture d'une procédure de destitution contre M. Trump en raison de l'ingérence russe dans son élection ou de ses conflits d'intérêts, mais ses efforts avaient jusque-là été bloqués par l'aile modérée de leur parti. C'est finalement l'affaire ukrainienne qui a convaincu cette dernière de se rallier à l'option politiquement risquée de l'impeachment.
Actualité aux États-Unis toujours, selon la presse américaine, le président Trump s'est plaint du fait que cette affaire de procédure de destitution à Washington ait en quelque sorte éclipsé son discours à New York à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Plus de détails avec notre correspondante sur place, Dili Diko.
La journée de mardi a été marquée par l'intervention du président américain Donald Trump. Dans son adresse, sa troisième depuis le début de son mandat, il a à nouveau pris position pour sa politique en faveur de l'Amérique d'abord, America First, en soulignant que l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais plutôt aux patriotes. Après ces paroles d'ordre symbolique, il s'est penché sur les grands dossiers internationaux en abordant la crise avec l'Iran, les relations commerciales avec la Chine, la situation politique et sociale au Venezuela et le Brexit. En attendant les développements de ce mercredi, il est anticipé que cette journée sera également placée sous le signe du multilatéralisme et de la coopération. Au programme de cette troisième journée de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les discours de plusieurs présidents africains, l'un des plus attendus est celui d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il est prévu que le président malien prenne la parole dans l'après-midi pour parler notamment de la situation sécuritaire dans le pays, mais également dans la région du Sahel. Hier, son homologue burkinabé, le président Kabore, avait appelé, lors de son discours aux tribunes de l'ONU, au multilatéralisme, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et la pauvreté. Il a également déclaré qu'il est primordial de solidifier le cadre du G5 Sahel en soulignant que le soutien de la communauté internationale est d'une importance capitale pour mettre fin à l'insécurité et favoriser le développement. Quelques heures après le discours du président burkinabé, le chef d'État sénégalais Macky Sall avait à son tour pris la parole en faisant écho aux propos de ses prédécesseurs, mettant en avant le multilatéralisme.
Pour terminer, en Algérie, un tribunal militaire a condamné à 15 ans de prison Saïd Bouteflika, frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui était jugé pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Le général Toufik et son successeur à la tête du renseignement, Atman Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, jugée dans la même affaire devant le tribunal militaire de Blida au sud d'Alger, ont écopé de la même peine.